Radio Spirale. À l'occasion du lancement du 251e numéro de Spirale, intitulé « Dans l'œil de l'histoire » avec Georges Didier Huberman, Manon Plante animait une table ronde avec Catherine Chagnon, Georges Leroux, Guylaine Massoutre et Alexis Lucier. Voici l'intégrale de leurs échanges.
Alors, merci à tous d'être là pour ce lancement, pour cette discussion aussi autour de l'œuvre de Georges Didier Huberman. Alors, j'ai réuni autour de moi 4 collaborateurs au dossier qui vient tout juste de paraître. Quelques mots sur le dossier, ses origines. D'abord, Georges Didier Huberman, particulièrement depuis le début des années 2000, est un auteur qui est continuellement commenté, qui s'est trouvé des lecteurs, pas simplement au sein de l'équipe de Spirale, mais des collaborateurs, de vrais lecteurs passionnés qui nous ont soumis des comptes rendus au fil des ans, donc particulièrement depuis 15 ans. Et il y a toute une connivence entre l'esprit de Spirale et l'œuvre même de Georges Didier Huberman, ne serait-ce que par l'attention qu'il porte à des objets artistiques singuliers qu'il va suivre à l'intérieur de monographies. Et par son écriture aussi, écriture essayistique, donc avec un style qui marque vraiment la présence de celui qui regarde ces images et ces objets culturels. Et depuis plusieurs années, à Spirale, on essaie de secouer un peu les puces du bon vieux compte-rendu pour, disons, lancer nos collaborateurs vers l'écriture de l'essai. Alors, Didier Huberman, très certainement pour nous, est une œuvre vraiment importante. Alors, je vous présente mes invités, en commençant par Georges Leroux, donc professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM, traducteur de Platon notamment. Il a remporté pour son dernier essai, intitulé Wanderer, un essai sur la musique de Schubert. Georges Leroux est aussi très important, je dirais, sur la place publique. C'est un intellectuel que l'on entend sur les ondes de Radio-Canada, qu'on lit dans les pages du Devoir et qui fait, de ce point de vue-là, entendre des voix qui resteraient, disons, plus muettes sans sa présence. À l'autre bout de la table, Alexis Lucier, professeur au département d'études littéraires, s'est beaucoup intéressé, et s'intéresse toujours, au rapport entre psychanalyse et littérature. Il a beaucoup travaillé sur la photographie, les arts visuels, et il est aussi membre du comité de rédaction de Spirale. À ma gauche, Catherine Chagnon, doctorante en fin de thèse, alors nous sommes tous avec toi, qui travaille justement sur l'œuvre de Georges Didier Huberman, et sur l'œuvre théorique de Michael Fried, qui s'intéresse à la place du fantasme à l'intérieur de ces deux œuvres. Et elle est chez, non pas chez des concurrents, mais membre des amis, oui, voilà. Membre du comité de rédaction de la revue S. Enfin, Guylaine Massoutre, juste à côté de moi, sans qui ce dossier vraiment n'aurait pas pu voir le jour. Professeur donc de littérature au Cégep du Vieux-Montréal. Vous la connaissez tous pour ses collaborations régulières dans le journal Le Devoir. Guylaine, c'est aussi une essayiste qui s'est penchée sur les œuvres d'Aquin, de Yourcenar, et c'est aussi quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup par la danse. D'ailleurs, en 2004, l'atelier du danseur s'était vu remettre le prix de l'essai Spirale. D'ailleurs, ma première question sera pour toi, Guylaine, parce que justement, tu t'es intéressée à la danse. Ça peut paraître curieux parce que ce n'est pas un sujet qui est abondamment traité chez Georges Didier Huberman. Il n'y a qu'une œuvre qui porte directement sur la danse. Mais la question du mouvement, de l'image en acte, de l'image en mouvement, la place du geste, est toujours remise en avant-plan chez Georges Didier Huberman. Et c'est une pensée qui lui vient de Warburg. Alors, j'aimerais, Guylaine, que tu déplies un petit peu ça pour nous.
plus aisément. Alors, écoutez, oui, il y a un essai sur la danse qui s'appelle « Solitude du danseur » qui porte sur le travail d'Israël Galvan, qui est écrit déjà il y a presque une dizaine d'années, je pense, maintenant, sur la danse. Mais ce n'est pas par cet ouvrage-là, qui est pourtant magnifique, que j'ai pu m'intéresser à Didier Huberman, mais peut-être par deux livres qui font écho et qui permettent de répondre à la question que tu viens de poser. Le premier, c'est « Phasme », qui a été publié en 1998, sur le mimétisme, cet étrange animal qui se fond sur quoi il se pose. Et puis, Phalène, qui est un ouvrage donc plus récent, qui est de 2013, et dont vous allez trouver l'écho et la recension, ou la lecture, disons, plutôt dans le dossier de Spirale. Et Phalène, c'est le Phalène ou la Phalène, je crois qu'on peut dire les deux, c'est un papillon de nuit, qui est donc très éphémère, qui ne vit qu'une l'espace d'une nuit et qui se détruit en tombant en poussière. Alors Didier Huberman a fait du phasme et du phalène, de la phalène, un symbole, une image de ce qui à l'intérieur des images est éphémère. Aussi bien la vision que nous portons, le regard que nous portons sur l'analyse des images, que ce qui sort véritablement de l'image et qui clignote, qui nous appelle, qui est instable, qui est intermittent, qui est un rythme, et voilà, qui donc est un battement vivant, qui est à l'intérieur de l'image, et c'est ce qui nous plaît beaucoup tous les uns et les autres, je crois, cette vie qui sort de l'image. Alors, ces papillons, on les retrouve dans toute l'œuvre de Didier Huberman, des papillons qui errent, et qui sont ces clignotements, cette vision intermittente de ce que nous pouvons voir dans les images comme en lecture. On sait bien que les livres que nous ne les lisons jamais de la même manière. Les grandes œuvres se lisent et se relisent et le sens est toujours différent, apparaît toujours d'une façon magique un peu, on va dire. Eh bien, la découverte, en fait, ou la redécouverte, au fond, de Didier Huberman, c'est que c'est la même chose sur ce qu'on croyait éminemment stable, c'est-à-dire les images d'art et les photographies, surtout ces photographies qu'on croyait calquées, calquant le réel. Eh bien, il n'en est rien. Tout cela bouge, tout cela est plein de papillons. Et c'est ce qu'on va voir, je pense, qui a été réveillé, éveillé et porté incandescence un petit peu dans l'œuvre de Didier Huberman. Alors, tout cela vient de loin, vient de Warburg. Alors, on va avoir l'occasion, je pense, d'expliciter un petit peu qui était Warburg et pourquoi Warburg, et puis qu'est-ce que Warburg a apporté sur cette image de l'intermittence. Mais je vais peut-être tout de suite lancer cette figure essentielle qui nous ramène à la danse, hein, puisque c'est celle d'Eurydice. Alors, cette Eurydice qui passe et qui disparaît et qui revient des enfers, en fait, ramenée par Orphée, hein, sur la musique, sur le poème, enfin, qui va donc dans l'univers des enfers chercher celle qu'il aime, celle qu'il aime de manière obsessionnelle, obsédante, et qui va donc voir dans le mythe ce qui ne peut pas être vu, l'au-delà, l'enfer, la mort, l'au-delà de la mort, et qui, revenant vers les humains avec cette connaissance, va devoir payer cette connaissance chère, hein, de sa vue, enfin de ce qu'il a vu, plutôt de sa vision, c'est-à-dire renvoyer, laisser repartir Eurydice dans le monde infernal. Donc cette figure qui danse, cette figure de l'apparition et de la disparition, puisque telle était ta question, c'est celle qu'on va retrouver dans tous les livres et dans toute la façon de voir de Didier Huberman. Et là, je vais laisser mes collègues enchaîner là-dessus.
Oui, donc mouvement, battement, rythme à l'intérieur du regard. Ce qui est très important chez Didier Huberman, c'est qu'en fait, que l'image n'est jamais une chose que l'on contemple. Hein. C'est quelque chose qui nous interpelle. Et c'est quelque chose qui a été problématisé dès la toute première œuvre, donc en 1982, avec l'invention de l'hystérie. Alors, Alexis, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça, c'est-à-dire que les premiers objets d'étude de Didier Huberman ont été ses corps hystériques photographiés, et ensuite il s'est emparé de l'hystérie pour parler de l'image comme
pardon, parler de l'image vraiment comme un corps hystérique. Donc, comment on glisse chez Didi Huberman d'un regard sur les hystériques à une image conçue comme un corps hystérique?
C'est toute une question, ça. oui, alors, c'est vrai que le premier ouvrage de Didi Huberman s'intitule « L'invention de l'hystérie ». C'est un travail sur Charcot, sur la place de la photographie à la Salpêtrière, à cette époque où Charcot se distinguait par son art de la description de la crise hystérique, qui est une forme de danse d'une certaine façon, c'est le corps qui est pris dans un rythme, qui est le rythme de la crise elle-même, avec toutes ces phases que Charcot décrivait avec énormément de précision. Freud était à genoux devant les descriptions de Charcot, même s'il n'était pas du tout d'accord avec lui. Mais l'art de la description chez Charcot, elle a été très, très importante pour Freud. Et donc, chez Didi Huberman, il y a ça au début. Donc, la photographie, l'image des corps hystériques à la Salpêtrière, la notion de symptôme inévitable lorsqu'on parle d'hystérie. Et puis, il y a un autre texte que moi, je trouve très, très important, mais dont on parle presque jamais, qui a été écrit presque en même temps. C'est un petit livre qui s'appelle « Mémorandum de la peste », qui est un texte qui est entre l'essai et la fiction très personnelle, et où Didi Huberman décrit les grandes périodes de peste en Europe comme des moments où l'imagination s'embrase, c'est-à-dire qu'on devient superstitieux, la société se désorganise, on invente toutes sortes de rituels de conjuration. Et du coup, l'imagination, les images et les corps sont pris dans une espèce de convulsion sociale et historique qui est pas loin, au fond, de, en même temps, la crise hystérique chez Charcot. Vous voyez le parallèle. Sauf qu'avec Mémorandum de la peste, je dirais qu'on est moins dans l'hystérie que dans la paranoïa. Mais enfin, vous lirez l'entretien qu'on a eu avec lui, on est revenu sur cette affaire-là, et effectivement, il y a tout ça au début. Alors, le terme qui ressort beaucoup de l'invention de l'hystérie et de toute cette époque-là pour Didi Huberman, c'est le terme de symptôme. Parler de symptômes pour un historien d'art, ça avait quelque chose d'irrévérencieux, c'est-à-dire c'était très, très audacieux de sa part. C'était pas du tout une catégorie conceptuelle classique en histoire de l'art, et ça avait quelque chose d'assez polémique au fond. Le mot de symptôme, il est dans Charcot, mais au fond, c'est beaucoup avec Freud que le terme va prendre, je dirais, tout son poids et sa densité théorique. Et si vous vous intéressez à cette question-là, ben, effectivement, il faut aller lire chez Didi Huberman l'invention de l'hystérie, mais il faut surtout aller voir ce que Didi Huberman en fait dans son livre sur Warburg, l'image survivante, où Didi Huberman consacre à peu près 80 pages sur la question du symptôme au sens de Freud, dans un livre consacré à Warburg. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas uniquement la notion de symptôme au sens de Freud, c'est le rapprochement que Didi Huberman aperçoit entre ce qui est en jeu chez Warburg du côté du pathos formel, du côté de la passion, des formes de la passion des corps, et puis cette notion freudienne qui est la notion de symptôme. Donc, il y a quelque chose là qui est très, très important et que Didi Huberman a défendu longtemps. Et il nous l'a dit dans l'entretien qu'on a fait avec lui, le mot de symptôme, il a vraiment fallu qu'il le défende pendant des années parce que ça passait pas. Mais il y avait quelque chose là qui permettait de déplacer toutes sortes d'enjeux en ce qui concerne le savoir sur les images, le savoir sur les images du corps. Et ça a donné lieu à une réflexion critique qui était très, très intéressante et qui l'est encore. Ouais.
Je voudrais simplement ajouter, par rapport aux symptômes, que c'est avant d'apparaître dans l'image survivante, ça apparaît dans un livre qui s'appelle Devant l'image, qui est un livre vraiment qui est un essai de critique du champ épistémologique de l'histoire de l'art comme tel. Et le terme de symptôme, le concept de symptôme, arrive vraiment là pour déconstruire une histoire de l'art de type positiviste, très, très dans la tradition de Panofsky, de Vasari, tout ça. Donc, une histoire de l'art qui est mise sur le visible, le lisible, donc dans une tradition iconologique. Et Didier Huberman arrive avec le mot symptôme dans cet ouvrage-là pour proposer finalement une sorte de contre-histoire de l'art qui fonctionnerait davantage sur le modèle de ce qu'il appelle aussi le visuel, donc un paradigme qui, plutôt que de travailler dans la lisibilité de l'image, donc dans la possibilité de décoder, de tout voir, qui travaillerait plutôt de façon phénoménologique. Hein, le concept de symptôme, Didier Huberman l'interprète dans un sens très phénoménologique, donc c'est quelque chose qui survient. Et donc, Didier Huberman va essayer de théoriser une histoire de l'art qui laisse la place à l'expérience visuelle et au temps d'attente devant l'image, au non-savoir, à ce dont l'image nous dessaisit. Donc, comment on peut regarder une image, une œuvre d'art, et ne pas essayer de tout comprendre, mais plutôt de se laisser dessaisir par l'image. Donc, c'est un peu ça qu'au départ, Didier Huberman va faire lui-même du symptôme comme... comme concept, oui, polémique, mais aussi comme contre-concept, si on veut, qui vient s'opposer pour lui à tout le schématisme kantien qui est à la base même de la construction épistémologique de l'histoire de l'art au XXe siècle. Donc, voilà.
Pas longtemps.
Bon, alors juste une parenthèse pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que tu parlais de Panofsky, puis la question du visible, ce que de venir introduire la question du symptôme dans l'image visible, ça nous rend le visible moins évident. Mm-hmm. C'est-à-dire que du coup, le coup, c'est presque un moment épistémologique de dire au fond, le visible est loin d'être évident et on le redivise, on fait sentir que l'image elle-même est travaillée par quelque chose qu'on ne voit pas. Et au fond, c'est aussi ça le symptôme.
La figurabilité.
Alors, Catherine, ce que tu faisais ressortir sur l'image qui implique nécessairement une expérience donc de dessaisissement, ça me mène à vous questionner, Georges Leroux, sur la place de l'émotion dans le travail de Georges Didier Huberman, une émotion qui ouvre, je dirais, sur la question de l'éthique, de la responsabilité chez Georges Didier Huberman. Il y a tout un pan de son œuvre qui s'est intéressé à l'histoire, à la Shoah, particulièrement aux images issues des camps de la mort. Alors, peut-être pouvez-vous débroussailler tout ça pour nous.
Merci. Bonsoir à tous. Merci d'abord de m'avoir invité à collaborer à ce dossier. Je veux dire, par manière d'introduction, un peu ce qui a amené la lecture de Georges Didier Huberman pour moi. J'ai été l'élève de Raymond Klimansky, et à qui j'ai consacré pas mal de travail ces 10 dernières années. Et, son œuvre, celle de Raymond Klimansky, son livre en particulier, Saturne et la mélancolie, qui a été fait avec Panofsky et Saxul, a été jugé par d'aucuns comme étant le livre le plus warburgien de l'histoire de l'art. Donc, Didier Huberman intervient comme un lecteur de Warburg, comme un lecteur de Panofsky aussi. Et donc, nous avons cette filiation qui est à la fois directe, mais aussi très complexe. Et c'est à travers ce canal que je me suis aperçu que la lecture que je faisais de lui, de manière, appelons-la, dilettante, avait des motifs plus sérieux de s'élaborer. Alors, la question que vous posez, je voudrais tenter d'y répondre à partir de Warburg. C'est-à-dire à partir de la mélancolie de Warburg. Le rapport à l'image qui se joue dans les essais de Warburg est évidemment un rapport à l'image qui n'a rien à voir avec celui qui a été élaboré par ma génération. Je veux dire par là le rapport du formalisme structuraliste et ainsi de suite, cette volonté donc de saisir, cette volonté de structurer ce qui est en jeu dans l'image, allait au-delà de ce que Warburg avait déjà mis en place. Et c'est une des énigmes, je trouve, de l'histoire de la saisie de l'image de notre époque, qui est cet oubli de Warburg pendant 40 ou 50 années. C'est comme si la question de Warburg, c'est-à-dire l'émotion de l'image, évoquée par Alexis justement dans le concept central de l'œuvre de Warburg, qui est la forme du pathos, le pathos forme, c'est très difficile à traduire, c'est comme si tout cela n'avait pas existé et que tout d'un coup on y revenait. Et il faut donc savoir gré à Georges Didier Huberman, dans son grand livre L'image survivante, qui est certainement son chef-d'œuvre, d'avoir franchi cet obstacle, obstacle épistémologique, tu l'as dit Alexis, mais aussi un obstacle qu'on pourrait appeler académique, car ce n'était pas rien que d'aller au-delà des gens qui ont travaillé autour de lui, comme Hubert Damisch et tant d'autres. Alors la théorie du nuage, ce n'était pas pour lui. Alors donc, pour faire court, quand on entre dans la question de la responsabilité devant l'histoire par la mélancolie de Warburg, il ne faut jamais oublier que Warburg, c'est un enfant de la guerre de 14. C'est quelqu'un qui devient fou durant la guerre de 14. Quand Raymond Klibanski arrive dans son séminaire à Hambourg en 1926, il est déjà fou. Il ne possède plus la ligne qu'il veut suivre dans son approche des images. Il a mis en place l'atlas que Didier Huberman va reprendre. Je ne suis pas du tout étonné d'ailleurs de voir Didier Huberman s'attacher à certaines des planches de l'Atlas qui sont des combinaisons d'images qui représentent précisément la mélancolie de Warburg, en particulier la planche 42 qui est sur les lamentations. Didier Huberman en a fait un travail absolument exceptionnel, mais je ne veux pas perdre ma ligne et je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je veux garder mon idée. Mon idée, c'est que c'est Warburg qui avait déjà mis en place tout cet aspect de notre rapport, appelons-le émotionnel, à l'image. Et pourquoi l'avait-il fait? Eh bien, parce que lui-même, on le voit très bien, d'ailleurs, en fait, très bien, je ne dirais pas, parce que le livre me déçoit un peu, mais dans la biographie que vient de lui consacrer Madame Lescouret, la biographie d'Abbé Warburg, c'est une biographie qui est un peu trop sensible, à mes yeux, à sa vie mondaine et à son argent, et parce qu'il était, il disposait de tout l'argent dont il voulait pour faire sa collection. Il était un fils de famille dans une famille de banquiers, mais ce qui est important pour Warburg, c'est que sa souffrance personnelle, son rapport à l'histoire de l'art, était une volonté d'investir sa souffrance personnelle dans la connaissance des œuvres. Et c'est la raison pour laquelle il a créé cet atlas qui est, pour ainsi dire, son musée privé et qui n'était pas du tout destiné à la publication et aux usages que nous en faisons dans le moment. Il le transportait partout. Il avait dans les chambres d'hôtel des exigences qui étaient un peu surprenantes pour les hôteliers. Il demandait des panneaux noirs, il demandait des boîtes d'épingles et il sortait tout son matériel. Et il ne faut pas oublier qu'on n'était pas à l'époque de la photocopie. Tout ça était photographié, était donc repris de cliché en cliché, et ainsi de suite. Bon, alors, c'est cette approche, appelons-la émotionnelle, c'est très difficile de traduire pathos formel, c'est quand il identifie Warburg, donc, dans l'image, le moment de crispation où l'image nous dit quelque chose et elle va saisir en nous le motif de souffrance qui est en nous, le motif de nostalgie, le motif de mélancolie et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu marginal par rapport à notre propos de ce soir, mais ce qui est intéressant, c'est que ses élèves, les plus importants, Saxul et Panofsky, n'ont pas entendu cette leçon. Ça me sidère. Panofsky s'est dépêché de figer cette leçon dans l'iconologie, c'est-à-dire de créer les prémices de ce qu'allait devenir le structuralisme, et d'autre part, Saxul, évidemment, qui était un historien prodigieux des manuscrits, qui a fait un travail formidable sur les manuscrits
manuscrits médicaux et tout, a, lui, au contraire, balayé l'héritage de Warburg vers une science érudite. Alors, le seul des trois, je dirais, qui a un peu entendu ce que Didier Huberman va entendre, c'est évidemment Klibanski, et d'où l'intérêt, d'ailleurs, de Didier Huberman pour cette filière. Alors, donc, la question, c'est d'où vient pour nous cette responsabilité, cet impératif moral d'une lecture qui est éthique, on pourrait dire, de l'image, même si c'est un mot qui ne circule pas chez Warburg ni chez ses élèves, c'est que, Didier Huberman ne cesse de le répéter, l'image est interpellation. Alors, on pourrait faire ici une généalogie, je ne m'y livrerai pas, on n'a pas le temps, mais dans tous les petits écrits de Didier Huberman qui sont très bien représentés dans le dossier, Luciole en particulier, que j'aime particulièrement moi, c'est-à-dire que c'est un des livres auxquels je tiens le plus, qui est un livre qui s'intéresse à Pasolini et qui cherche dans Pasolini des moments où, dans l'image, par l'image, on peut se donner des moyens d'espérer dans un chaos qui a tout, si vous voulez, d'une opacité complète. Alors, donc, Luciole, Écorce, qui est aussi le récit d'un voyage dans les camps de concentration. Quand on les accumule, tu as mentionné, Guylaine, le livre sur Israël Galvan, comment ne pas, évidemment, l'intégrer dans cette liste. Alors, tout cela fait un paysage à cette approche qui est la réunion de temps hétérogène où le rapport au passé livre une exigence pour le présent. Sur Internet, vous trouverez bien sûr beaucoup de conférences de genre Didier Huberman, mais il y en a une en particulier que je vous recommande, qui est absolument magnifique. C'est sa conférence sur un projet de Pasolini qui s'appelle La Rage, La Rabbia. C'est absolument extraordinaire. Didier Huberman nous dit pourquoi Pasolini est important pour lui et pourquoi l'image de Pasolini, qui est une incitation à la révolte poétique, doit servir de principe de lecture à toute son œuvre. Il le dit à ses étudiants, c'est une conférence, je ne sais plus trop, je crois que c'est dans une ville du nord de la France, et il dit en gros que son propre travail est entièrement inspiré par ce qu'il appelle cette rage créatrice, cette révolte. Et là, je le cite, parce que c'est une expression qui revient dans son livre, « Il s'agit toujours pour moi de reconfigurer un désir. » Alors, dans le numéro, vous allez trouver la très belle recension que fait Guylaine des expositions, en particulier l'exposition du Palais de Tokyo. On a ça là. Cette interpellation, elle nous vient d'un nouveau regard sur l'œuvre qui n'a rien à voir avec le formalisme qu'il cherche à dépasser. Alors, je termine en disant que peut-être on peut s'inquiéter, pas moi, mais je comprends qu'on puisse le faire, de l'utilisation du mot moral. Mais nous n'en avons pas d'autre. Le problème, c'est que, Didier Huberman le dit lui-même, il s'est formé chez Maldinet, où il a recueilli, c'est vous qui le dites, je crois, dans votre texte, l'héritage de la phénoménologie. Il ne veut plus rien savoir de l'héritage du structuralisme, mais il sait qu'il doit nommer cette responsabilité que nous avons devant l'image. Après tout, ce ne sont pas des collectionneurs d'images qui mettent des papiers dans des fichiers juste pour les accumuler. C'est parce qu'on veut en faire quelque chose, et si on en fait quelque chose, ce n'est pas juste pour en tirer une signification précadrée, c'est pour précisément que le monde change. Alors ça, je trouve que, je sais pas, ça doit être entendu, il me semble, dans le travail de Didier Huberman, et je ne vois pas d'autre mot pour le dire que le mot moral.
Oui, c'est magnifique. Alors, je ne ferai pas de commentaires sur ces explications magnifiques de Georges Leroux. Peut-être par plaisir, en fait, ajouter quelque chose sur cette figure, en fait, en revenant à Warburg, sur cette figure de la danseuse qui passe et de cette Eurydice initiatrice. Eh bien, comment c'est venu ? C'est venu quand Warburg faisait sa thèse à Bonn, enfin, dans un milieu d'histoire de l'art qui était très, très antisémite. Il a rompu un peu avec sa famille, tout en restant très attaché à sa famille. Enfin, il y a des choses vraiment extraordinaires à reprendre sur toute l'histoire de Warburg, mais il a travaillé sur Botticelli. Et on connaît tous cette figure antique de la danseuse qui passe hein, dans la naissance du printemps, la naissance de Vénus, pardon, et puis dans le printemps, on connaît tous cette légère danseuse qui passe avec ses pieds légers et qui est une figure antique, en fait. Et Warburg a montré... Alors que dans les images, il y a des cracks, hein, il y a des apparitions du temps, il y a des choses qui sont possibles dans l'image qui a l'air immobile, qui a l'air fixe, mais en fait qui sont une mémoire du geste, mémoire du corps, mémoire du geste que le peintre va faire ou sciemment ou involontairement ou à son insu. Et ce n'est pas pour rien qu'en 1907, Freud va écrire Délire et rêve dans la Gradiva de Jensen. Hein, comme cette figure qui ouvre l'inconscient en fait et qui poursuit enfin pourchasse enfin obsède le narrateur. Donc cette intrusion du temps, cette fêlure, cette craque, c'est évidemment ce par quoi chacun d'entre nous a contact et reprend contact avec l'image et va détruire en fait la signification, le sens déjà posé, va détruire ou va pénétrer à l'intérieur de l'intention d'une autre manière. Et j'ai relevé dans Didier Huberman mille choses, mais en particulier l'expression qu'il a pris chez Beckett. Beckett dit qu'il faut désobscurcir le langage, désobscurcir la vision. Et je crois qu'il faut s'arrêter sur ce mot. Désobscurcir, ça ne veut pas dire faire la pleine lumière. Ça veut dire regarder à travers le voile, regarder dans la fente, regarder à travers l'opacité et voir ce qu'il y a à voir malgré ce qui nous recouvre l'œil. Alors, c'est dans toute cette ambivalence du regard et du temps et que va naître, en fait, une anthropologie du geste. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve. Enfin, on y est tous infiniment sensibles dans le numéro, je crois, dans tous les articles. C'est ce qui bouge, au fond, à travers nous et en nous et qui vient de l'image et qui a été prévu ou qui n'avait été pas prévu, qui était prévu dans le cadre de l'image, mais qui n'a pas été en fait voulu ou qui n'a pas été, qui vient malgré tout, comme les danseuses venaient de l'Antiquité dans l'iconographie chrétienne à la Renaissance. Voilà.
Peut-être voulez-vous réagir, oui. Catherine?
Oui, ben je suis très sensible à cette figure de la danseuse parce que finalement, c'est quelque chose que moi, je vois aussi traverser toute l'œuvre de Didier Huberman à travers le motif de la nymphe qu'il reprend de Warburg. Warburg, il y a une planche dans l'Atlas, il a écrit des textes sur la figure de nympha. Et pour Didier Huberman, la nymphe était finalement l'objet d'amour que Warburg poursuivait à travers l'image. Et dans toute cette idée qu'Alexis présentait tout à l'heure, à savoir que... finalement, pour Didier Huberman, l'image est pensée comme un corps de femme hystérique, donc un corps en mouvement. C'est aussi une figure du temps, le symptôme hystérique, la crise d'hystérie. Et il y a comme ça, chez Didier Huberman, ponctuellement, des apparitions de figures féminines qui incarnent le temps. Donc, il y a l'hystérique, il y a la nymphe chez Warburg, il y a Gradiva chez Freud. Il va faire dans l'image survivante, il y a tout un long passage sur l'analogie entre la nymphe et nympha et Gradiva, et d'ailleurs il fait une suite ensuite avec Aura. Il y a un passage dans un magnifique livre qui a été publié la même année que l'image survivante qui s'appelle Nympha Moderna, où Didier Huberman fait une traversée de l'histoire de l'art depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine à travers le motif de la nymphe et du drapé tombé. Donc il fait une lecture, une traversée, pardon, je gesticule beaucoup, une traversée de l'histoire de l'art à travers le motif de la femme drapée, qui est la ménade, tout ça, et qui termine dans la serpillière, les sculptures molles de Robert Morris, et où il y a un très beau passage, moi, que je travaille beaucoup dans ma thèse, où il écrit « Nympha, aura, gradiva ». Et donc l'aura, qui est aussi un motif extrêmement important chez Didier Huberman, qui va reprendre chez Benjamin celui-là, devient aussi une incarnation temporelle, une incarnation de figure du temps, qui va personnifier parce qu'il fait, il met aura avec un A majuscule, donc c'est vraiment important. Et il crée aussi, comme ça, moi je m'intéresse beaucoup à la construction fantasmatique de l'histoire de l'art chez Didier Huberman, et à travers ces figures-là qui traversent son propre, sa propre construction, son œuvre complète, il y a vraiment comme un film aussi qui s'écrit, qui se monte à travers des scènes comme celle-là. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est que dans ces figures de femmes, qui sont des figures, des incarnations de l'image, des incarnations du temps, ces figures-là correspondent, elles sont accouplées, je dirais, à ces grandes figures héroïques masculines, les grands théoriciens dont il est le fils, si on veut, intellectuel, à savoir Freud, Warburg et Benjamin, qui sont les trois héros intellectuels de Didier Huberman. Et dans ces modèles de l'image ou du temps, il y a ces trois femmes, Aura, Gradiva et Nympha, qui sont finalement les amantes de ces pères. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'absolument magnifique qui s'écrit comme ça entre les lignes, mais qu'on peut retracer quand on fait le fil de l'histoire de l'art de Georges Didier Huberman.
On dit beaucoup de choses, mais et c'est un fait que il y a aussi beaucoup de motifs chez Didier Huberman. C'est-à-dire que bon, il y a la nef, il y a la phalène, il y a le phasme. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a le drapé tombé. Il y a quelque chose qui caractérise beaucoup de motifs chez Didier Huberman et qui pose continuellement la question du temps, c'est l'éphémérité, c'est la fragilité de ce qui apparaît. Et c'est ça caractérise beaucoup des images qui l'intéressent lui, mais je trouve que ça caractérise beaucoup ce qu'il est lui en tant que regard et en tant que sujet devant les images. Georges disait tout à l'heure que, comme Warburg, il risque sa subjectivité dans son rapport aux images, et il risque non seulement sa subjectivité, mais en plus il en fait, il traduit ce qu'il ressent et ce qu'il reçoit à l'intérieur d'un discours critique, argumenté, avec un travail sur les concepts, un travail critique, etc. Donc, il est vraiment sur un fil qui est très, très particulier. Mais donc, dans beaucoup des motifs qui l'intéressent, la fragilité de l'apparition elle-même, je trouve que c'est quelque chose qui revient énormément. Et là-dessus, il est très émouvant. Il est très émouvant quand il parle des lucioles. Alors, c'est les lucioles dans Pasolini, et donc c'est les lucioles dans l'obscurité de l'histoire, l'obscurité la plus angoissante et la plus totale. Et en même temps, il arrive à traduire le motif de la luciole, qui est cette infime lueur qui, dans la nuit la plus obscure, peut faire toute la différence. Et c'est vraiment très, très beau ce qu'il dit à propos de toutes ces figures qui passent et qui ont un côté imprévu aussi. C'est-à-dire, Didier Huberman, lorsqu'il est devant la peinture de Frangelico, par exemple, ce qui le fait vraiment travailler, au point où ça lui a fait écrire un livre, c'est ce qui lui a sauté tout d'un coup aux yeux et qui n'était pas prévu du tout. C'était pas prévu par Didier Huberman, mais c'était pas prévu par l'histoire de l'art elle-même. C'est-à-dire des espèces de taches, des splashes de peinture qui n'étaient pas considérées par l'histoire de l'art comme étant un motif pictural à part entière qu'il fallait considérer. Donc le motif inattendu et imprévu qui tout d'un coup fait effraction dans le savoir sur les images, ça c'est quelque chose qui est très très important chez Didier Huberman.
L'imprévu naît aussi, on l'évoquait tout à l'heure, de la mise en relation entre les images, donc du montage. Vous avez évoqué l'atlas de Warburg. Je trouvais ça intéressant que vous en parliez en termes de petits musées portatifs, parce que ça me faisait écho à votre texte dans le dossier qui... bon, votre texte qui porte sur l'album de l'art, un texte qui justement joue un peu Warburg contre Malraux, et ça permet de voir en fait qu'il y a je dirais, peut-être un bon usage du montage qui est proposé par Didier Huberman et qui évite de tomber dans une catégorie qui l'exècre, le postmoderne et son ludisme. Alors, peut-être, Catherine, tu pourrais nous entretenir un peu là-dessus.
Oui. En fait, moi, c'est une chose à laquelle je réfléchis beaucoup et qui me pose beaucoup de questions. Cette façon que Didier Huberman a de polariser un peu les choses. C'est-à-dire qu'il y aurait une bonne façon et une mauvaise façon de faire les choses. Il y a cette confrontation des pensées qui est une espèce de modus operandi chez lui qui fonctionne sur le plan méthodologique très bien, mais qui en même temps me pose beaucoup de problèmes, je l'admets. Je perçoit comme une forme de paradoxe aussi dans le fait d'être un penseur qui est tellement dans un rapport dialectique à la pensée et qui s'attache à des pensées dialectiques qui est contre toute forme d'autorité et en même temps de travailler dans l'opposition. Alors ça, c'est une chose à laquelle et on en a beaucoup discuté lui et moi ensemble parce que il le voit pas de cette façon-là, ou en tout cas, il le voit nécessaire, et je peux comprendre qu'il voit cette chose-là de façon nécessaire, mais pour ce qui est donc de la question du montage et du débat avec Malraux, entre Warburg et Malraux, ce que je trouve intéressant, c'est aussi la dimension prescriptive que prend cette question-là, à savoir, donc, il y aurait un bon usage et un mauvais usage, et voilà ce que serait le bon usage et pourquoi. Et donc, je ne vais pas développer en long et en large sur ce que Didier Huberman reconnaît chez Warburg et qu'il dénonce chez Malraux. Mais la principale chose, je dirais, c'est tout tourne pour lui autour de la question de l'autorité. Donc, pour lui, la raison pour laquelle Malraux, la façon dont il donc construit son musée imaginaire, qui est finalement l'équivalent, entre guillemets, de l'Atlas Warburgien, la raison pour laquelle, pour Didier Huberman, cette chose-là n'est pas bonne en termes de montage, c'est qu'elle est le produit d'une autorité, donc d'un jeu qui se met au centre de son travail, qui adopte une posture autoritaire d'écrivain, qui a aussi, qui referme, si on veut, le champ des possibilités de l'histoire de l'art sur des concepts esthétiques très traditionnels et qui a une ambition schématisante et synthétisante, en fait. Et ce que, par ailleurs, Didier Huberman admire chez Warburg et chez les penseurs avec lesquels il travaille, c'est plutôt une forme de prolifération, de travail dans la singularité, sans unité, sans synthèse, dans le mouvement et tout ça. Et donc, pour lui, il y a cette bonne façon de travailler les images, à savoir de les prendre dans leur singularité, de les faire bouger sans cesse, de jamais fermer, de ne jamais clore, si on veut, l'objet du champ de la visibilité, du champ de l'image. Ce qu'il voit comme le biais, si on veut, de Malraux. Mais il reste, pour moi, toute la question de savoir pourquoi, à la fois dénoncer l'autorité et adopter, finalement, un discours très prescriptif sur les images. Donc là, pour moi, c'est peut-être le paradoxe central de l'œuvre de Didier Huberman. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous percevez aussi.
J'aimerais vous poser une question. Je trouve très intéressant la structure que vraiment intéressante cette structure que vous venez d'élaborer pour votre thèse, mm-hmm. où Benjamin et Freud deviennent en quelque sorte bon. Et j'ai lu les conférences du Louvre, mm-hmm. et je trouve que ces conférences sont trop respectueuses. J'aimerais connaître votre avis là-dessus. C'est-à-dire que André Malraux est un monument de la culture française. Et on ne peut pas dire, voilà, Malraux s'est construit à lui-même son propre monument. C'est en gros ce qu'il veut faire. Mais il ne le dit pas assez fort. Et surtout, Didier Berman procède comme si la légitimité du projet de Malraux n'était pas entamée fondamentalement par ce que vous appelez sa prescription. Or, à mon avis, elle l'est, et pour des raisons qui sont très évidentes, c'est que le projet de Malraux répond en son temps à une philosophie de l'histoire qui est celle de Raymond Aron. Ah, il ne faut jamais l'oublier, Malraux vit le moment en quelque sorte de restructuration de la France sur le plan symbolique, et donc les voies du silence, tout ça, ça accompagne cette immense reconfiguration de la culture française. Alors, je pense que Didier Berman pense ça. C'est-à-dire, il pense en d'autres mots qu'il est temps qu'on laisse ça derrière nous et que des voies plus singulières, sa référence à Gilles Deleuze me semble nous faire comprendre tout. Alors, j'aimerais ça, est-ce que c'est aussi votre avis? Est-ce que vous avez trouvé ces conférences un peu, on pourrait dire, pas timides, mais...
Oui, ben, en fait...
Je trouve pas les mots, là.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'emblée, la structure de l'ouvrage m'a énormément surprise, c'est-à-dire que c'est une structure dialectique dans le très très classique sur le plan de l'argumentation. Donc il fait la thèse. Donc peut-être Malraux serait proche de Warburg dans sa manière de tatata, il le rapproche. Ensuite il le détruit. Mais c'est comme s'il devait passer par cette politesse que vous nommez très bien. D'essayer de le défendre, mais on ne comprend pas exactement pourquoi. Parce que, bon, et là, j'entre dans l'anecdote, mais c'est intéressant. J'ai été assise à la BNF à côté de Georges Didier Berman au moment où il mettait en place le Malraux. C'était tout à fait un hasard. Je me suis retrouvée assise à côté de lui. Il était plein de livres de Malraux, puis ça m'étonnait en soi. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Et puis il me dit, ben, il me dit, on m'a posé une question. On m'a demandé, en fait, l'Atlas de Warburg, c'est comme le musée imaginaire de Malraux. Puis il m'a dit, je suis profondément convaincue que c'est très, très différent, mais encore faut-il que j'en fasse la démonstration. Et donc, ce livre-là, pour moi, c'est une réponse à cette question. Mais oui. Effectivement, il approche à tâtons. Et effectivement, il y a une forme de politesse. Et je ne sais pas si peut-être ça a quelque chose à voir avec le contexte dans lequel il a présenté ces conférences-là au Louvre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir? Je sais que, bon, Didier Berman a un rapport très, très complexe aux institutions académiques françaises, institutions même culturelles. Il a même beaucoup de difficultés à faire exposer ses projets de commissariat dans les musées en France, alors qu'il est accueilli partout ailleurs. Donc, je ne sais pas si par rapport au contexte institutionnel, il n'y a pas ce rapport un peu compliqué où il faut qu'il soit un peu plus consensuel pour se faire entendre, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est un livre extrêmement surprenant dans son propos, ben, en fait, dans l'approche, dans l'approche et dans la structure argumentative. Oui.
Moi, je ne peux pas répondre sur Malraux, mais sur la différence quand même entre, ajouter quelque chose sur la différence entre l'Atlas tel que le conçoit Warburg et puis, au fond, un catalogue, une sorte de... Bon, le musée imaginaire, quand même, ça reste quand même quelque chose, un objet relativement statique. Bon, quand on voit Didier Berman concevoir son hommage à Warburg avec cette planche 42, là, sur les lamentations, alors, il part de ce que faisait Warburg, c'est-à-dire il a utilisé, bon, on a vu Phalène, Fasse et tout ça, bon, l'image du papillon, papillonner, il fait de très beaux développements sur papillonner. Papillonner, c'est un sens très négatif qui veut dire aller sur les choses d'une manière superficielle et puis rien comprendre finalement. Mais ça a aussi un autre sens. Ça a aussi le sens en psychanalyse de l'écoute un peu distraite, des associations qui vont se faire involontairement, enfin de tout ce qui est le savoir latent, le savoir vraiment, enfin tout ce qui est connu, et puis l'émotion, et puis la mémoire involontaire anthropologique, donc très très ancienne. C'est tout cela qui est remis en mouvement dans le papillonnage, dans l'écoute involontaire. Donc quand il rend hommage, lui, Didier Berman, à cette planche 42 de Warburg, de l'Atlas de Warburg, dans lesquelles il y a des œuvres qui sont de différentes époques, différentes natures, et qui parlent des pleurs, hein, qui parlent de regretter la personne disparue, soit dans des rites, soit dans des, enfin, les statues, les bas-reliefs, etc. Quand donc Didier Berman décide de faire une exposition, d'ailleurs ça ne vient pas n'importe quand, ça vient après le travail sur les images d'Auschwitz, dont on a fort peu parlé, et qui en soi un monde enfin, de révolution totale, enfin, sur la façon de regarder, il faudrait peut-être en dire quelque chose. Moi j'ai juste parlé de cette exposition-là. C'est une exposition qui évolue, elle en est à sa cinquième mouture, on va dire. Elle a commencé à Madrid, elle est allée à Karlsruhe en Allemagne, elle est allée ensuite à Hambourg, enfin c'est pas rien, Hambourg c'est la ville de Warburg, et puis elle est allée ensuite chez Alain Fleischer, où elle a repris tout à fait un autre tour, et j'aurais dû dire qu'à Hambourg, Didier Berman s'est adjoint Arno Gissinger, qui est un photographe et aussi un penseur de l'image, qui a fait des photos sur l'exposition. Donc, on va avoir un regard distancé qui va s'ajouter à cette exposition, qui n'est d'ailleurs pas une exposition, qui est une installation, en fait, d'œuvres virtuelles, hein, avec des centaines d'images, hein, qui sont proposées dans cette dite exposition qui s'appelle « Nouvelle histoire de fantômes ». Bien, donc... l'exposition évolue. Voilà, c'est ça le travail de Didier Berman. C'est que même son propre objet, tel qu'il le conçoit, va se transformer par l'ajout de nouveaux collaborateurs qui vont introduire eux aussi un regard qui va distancer l'émotion. On est sur le deuil, on est sur le travail de la lamentation. Et qu'est-ce qui apparaît? Et c'est ça qui est nouveau, c'est ça que je voulais dire. C'est que contrairement à une collection d'images qui représenterait les différents rites funéraires et les différentes façons de regretter un disparu, eh bien, c'est plutôt la vie qui apparaît. C'est-à-dire, c'est le regard des vivants sur les morts, et non plus les morts que l'on regarde, mais les rituels, les gestes, les paroles, les propos, les expressions du visage, les chants, etc., à travers les cultures, à travers le temps. C'est vraiment anachronique, c'est-à-dire ça traverse le temps dans les cultures, dans les coutumes. Et tout cela vante finalement la vie, toujours cette nymphe qui passe, mais aussi vante ce qu'il y a à conserver, à vanter de la vie une fois que tout est disparu et que ce qui est disparu, on ne peut rien en dire. C'est hors de notre humanité. Donc c'est ça la grande différence entre l'Atlas qui fait une collection qui est vraiment mélancolique, qui est vraiment dans le regret de ce qui a été, et puis l'Atlas, qui est une lecture vivante, inattendue, de mise en relation du savoir et de l'aventure de l'expérience, hein, comme a dit Catherine Chagnon, et puis Manon, tu l'as bien souligné aussi. C'est un risque tout le temps. Alors ça, c'est nouveau, ça, c'est pas malrussien.
Oui, en plus, sortir du livre pour passer dans l'espace du musée, quand même, c'est ajouter une dimension à l'expérience tout à fait différente. Alors, peut-être pouvons-nous prendre quelques questions de la salle. Alors, je ne sais pas qui voudrait se lancer. Vous avez quatre invités à cuisiner. On laisse la parole à Georges Leroux.
C'est pour vous aider.
Catherine, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre lecture du rapport avec Benjamin, qui est quand même, a priori, on pourrait dire, perceptible, puisque pensé par Huberman lui-même, mais en même temps un peu surprenant, parce que... juste explorer un peu cette idée, c'est que toutes les années où Walter Benjamin a ramassé les matériaux des passages, ce qui serait l'équivalent de son atlas, et que ses collègues, Adorno, bien sûr, lui demandaient, mais où tu t'en vas avec ça?
pourquoi tu nous demandes de l'argent pour ramasser tous ces matériaux? On te paie pour quelque chose, tu dois contribuer donc au matérialisme et tout. Et Benjamin a répondu dans deux petits textes, ce qu'on appelle les exposés. Il y a deux exposés. Donc on a la réponse de Benjamin à son désir de tirer quelque chose du matériau des passages. Et cette idée, c'est de faire une hypothèse sur l'avènement de la marchandise au 19e siècle. Qu'est-ce qui serait l'équivalent pour Didi Berman? C'est-à-dire que quand vous l'avez rencontré, vous avez discuté avec lui, on peut poser la question, il y a une forme de pourquoi qui reste en suspens. Et je doute qu'il veuille répondre à cette question.
Effectivement, c'est assez évasif. Et le rapport à Benjamin, c'est peut-être le plus flou, effectivement, dans les figures qu'il admire. Je lui ai posé la question directement par rapport à Warburg également, et il m'a dit Warburg, c'est... Il a commencé par dire Warburg, c'est le père. Et ensuite, il a dit, en fait, c'est la matrice, c'est plutôt la mère. C'est Warburg m'a permis de renaître. Et donc, pour moi, ça, c'était déjà clair. Warburg, c'est la mère. C'est une figure très maternelle. Et il y a beaucoup d'indices dans l'œuvre qui permettent de le lire de cette façon-là. Il m'a dit, Benjamin, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Et il s'est arrêté là. Donc, mais ce qui m'a, moi, longtemps questionné, c'est la lecture très dépolitisé qu'il faisait de Benjamin jusque dans les années jusqu'au début des années 2000. Quand il écrit, par exemple, dans « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde », tout le passage sur l'aura, sur l'image dialectique, il en fait une lecture très phénoménologique qui met de côté, si on veut, tout l'engagement politique et tout l'ancrage de Benjamin dans son histoire et dans son époque. Et cette chose-là réapparaît depuis quelques années. Et ça, c'est très intéressant parce que depuis Image malgré tout, il y a vraiment une cassure dans l'œuvre ou un tournant. C'est-à-dire que Didier Berman a mis les pieds dans le monde politique et dans l'histoire. Et il a relu ses penseurs avec cet éclairage plus politique, plus engagé. Et sa lecture de Benjamin a beaucoup changé. Et quand il va, par exemple, dans Les Lucioles, qui pour moi aussi est un livre extrêmement important, il y a toute la question d'organiser le pessimisme qui se met en place dans ce livre-là. Et Benjamin est là dans le livre, mais c'est assez flottant. Il va plutôt se référer à Hannah Arendt. Mais Benjamin est là. Mais donc, il y a quelque chose... C'est comme... J'ai l'impression que récemment, il a découvert pourquoi Benjamin. Pourquoi... parce qu'il permet d'être au présent dans un rapport à l'histoire et d'être engagé dans son travail de façon plus politique, je dirais, mais c'est quelque chose qui... Je pense qu'il cherche encore à savoir pourquoi, effectivement. Peut-être qu'il n'a pas la réponse, mais il y a certainement quelque chose dans l'accumulation des matériaux, comme vous le nommez chez Benjamin, avec une intention, mais qui est peut-être encore très inconsciente chez Didier Berman, parce qu'il y a tout l'œuvre fait système dans un sens, pas au sens négatif, mais il y a un système qui se met en place, tout est extrêmement cohérent. Et peut-être que l'œuvre de Didier Berman pourrait être conçue comme le livre des passages de Benjamin, mais à jamais inachevé. Je ne sais pas, mais... Merci.
Des questions? Soyez pas gênés. Alors, on pourrait continuer à parler longtemps, peut-être autour d'un verre de vin. Je crois que c'est le moment d'adopter mon ton plus publicitaire et de vous inviter, bien sûr, à sortir de la librairie avec un exemplaire de ce dossier. Merci à tous pour votre attention. Bonne fin de soirée. Et merci à mes invités, bien sûr, que je suis ingrate. Merci à Georges Leroux, Guylaine Massoutre, Catherine Chagnon et Alexis Lucier.
Radio Spirale.